Comme mentionné lors de l'épisode précédent, ça fait plus qu'un an que je travaille au Gameplay Space, endroit qui est, étonnamment, un espace de co-travail qui tourne autour du jeu vidéo à Montréal. Ce qui est un peu triste de ma part, c'est qu'au-delà des quelques discussions que j'ai eues avec les personnes qui s'occupent de l'espace, j'ai encore une perception assez abstraite du travail qui va derrière un tel endroit. Pourquoi faire un espace de co-travail qui tourne autour du jeu vidéo? Pourquoi avoir un tel espace à Montréal? Et, question quand même assez pertinente, quel est le public cible de ce type d'environnement? De plus, le Gameplay Space a lancé en début d'année une initiative qui s'appelle l'engin de découvrabilité. De ma perception assez limitée, cette initiative à date se manifeste dans différentes activités comme des soirées mondaines où est-ce que développeurs indépendants et influenceurs montréalais se côtoient pour le bien de nos artisans montréalais. Toutefois, je dois vous avouer que j'ai un pressentiment que l'engin de découvrabilité, c'est bien plus que quelques cocktails ici et là à longueur d'année. Voilà pourquoi j'ai cru bon de prendre contact avec Hélène Gussella, qui est gestionnaire de projet au Gameplay Space. Très étonnamment, je l'ai invitée à aller manger une poutine au Hippie Poutine sur la rue Saint-Denis afin de mieux comprendre quel est le travail qui va dans le Gameplay Space et, qui sait, peut-être avoir des idées sur leur plan futur. Mon nom est Patrick Talen, je suis concepteur d'interface de jeu et producteur de ce podcast. Je vous souhaite la bienvenue à l'épisode 25 de Poutine à deux. Donc oui, je suis avec Hélène actuellement au Hippie Poutine. Est-ce que ça va bien?
Ça va très bien, toi?
Très bien, très bien. On a pris un peu de temps pour regarder le menu actuellement. Projettes-tu de prendre quelque chose en particulier? Quels sont tes plans pour le futur?
Le futur immédiat, ouais. Je pense que je vais aller pour le feta.
OK. Et qu'est-ce qui t'a amené à ça? Voilà.
Ça a juste l'air bon.
OK. C'est juste intéressant. Très bien. Donc, on va commander tantôt, mais d'abord, on va parler un peu de toi. On va te présenter. Très bien. Bon, souvent, la manière qu'on utilise pour présenter les gens, c'est qu'on parle de ce qui intéresse les gens, probablement les gens qui nous écoutent, c'est le jeu vidéo. Pourrais-tu parler un peu de ton premier contact avec le jeu vidéo? Comment cette relation-là d'amour a commencé?
Dans le fond, j'ai aussi loin que je peux me souvenir, j'ai pas mal toujours joué à des jeux vidéo. Disons, dans les premiers, tout premiers là, qui m'ont marqué, puis dont j'ai encore des souvenirs francs, c'était sur la NES. Donc, les classiques Super Mario, Mario Bros. Le premier gros jeu, ça aurait été Final Fantasy.
Ah oui?
Le tout premier que j'ai encore et qui fonctionne.
À quel âge as-tu joué ça? Parce que c'est quand même assez violent mécaniquement, Final Fantasy, pour un enfant.
Peut-être. Je devais avoir 6 ou 7 ans. Je pense qu'on comprenait pas nécessairement encore à ce moment-là.
J'allais dire, avais-tu une compréhension correcte de l'anglais à cette époque-là? Parce que
on parlait beaucoup anglais chez moi.
OK, OK. Donc, non, ça devait aider, définitivement. Oui. Et après la NES, bon, il y a eu d'autres consoles, il y a eu d'autres plateformes. Oui. Es-tu resté dans le domaine de la console? Tu as migré un peu ailleurs?
Non, je suis surtout restée dans le domaine de la console. J'ai toujours été plutôt joueuse sur console. Particulièrement lorsque c'est venu la PlayStation, dont je suis restée une fidèle adepte jusqu'à aujourd'hui. Il y a juste... Il y avait comme une plus grosse division de contenu à l'époque, des types de jeux selon la console. J'ai toujours été une grande fan des jeux de rôle. Donc, c'était comme naturel de rester avec cette console-là. Puis, plus récemment, par contre, là, j'ai divergé vers d'autres types. Je joue sur à peu près toutes les plateformes. Je joue beaucoup sur mobile, dans les transports en commun chose qui rend plein de gens autour de moi vraiment fou. Je joue sur mon mobile pendant que je regarde des films. Oui, je fais ça vraiment beaucoup. Là, depuis un petit bout de temps, je suis vraiment attachée à ma Switch. Mm-hmm. Ça a été comme un cadeau de moi à moi cette année, puis que j'aime beaucoup. Donc, retour à Nintendo, que j'aime beaucoup, oui.
Est-ce que c'est juste renouer avec ces mascottes-là, Nintendo, ou pour toi, la Switch, ça présente un type d'expérience qui cadre mieux avec ton style de vie?
Bien, en fait, au niveau du style d'expérience, pas tant que ça, parce que ma Switch est sur son dock, donc elle est à la télé, puis j'ai la manette classique, donc qui est vraiment similaire à une manette de console.
OK, donc le côté portable, pour toi, c'est pas...
Bien, je l'utilise, mais pas plus que ça.
OK.
Donc, je pourrais pas dire que c'est tellement... tellement ça qui a fait la différence, mais les jeux. Puis, même si j'adore les jeux classiques Nintendo, c'est quelque chose qui vient toucher les éléments de nostalgie, mais dans lequel il y a juste franchement beaucoup de plaisir. Je l'ai découvert, cette console-là, à travers des jeux faits ici. Des jeux indie, donc ça, c'était super le fun.
Non, c'est vrai, c'est intéressant parce que c'est une dimension que beaucoup de médias en jeu ne couvrent pas, mais actuellement, la Nintendo Switch en vient définitivement pour les indépendants, genre la plateforme de prédilection.
Bien, premièrement, c'est le fun d'être sur cette console-là. Il y a quelque chose qui nous fait plaisir d'être attaché à Nintendo. Je pense que si on pense à l'âge moyen des développeurs, on a grandi avec Nintendo. Là, on a du mal à se détacher de cette étiquette-là malgré tout. Puis, mais Nintendo a fait une super belle plateforme pour les Nindies, justement. Puis ça, c'est agréable à voir.
Justement, tu es beaucoup plus en contact avec ce monde-là. En quoi Nintendo a changé leur approche? Parce qu'on s'entend qu'il y a 5 ans, Nintendo avait vraiment, on va le dire, une mauvaise réputation avec les développeurs indépendants parce qu'ils mettaient la barre tellement
C'était pas très accessible.
Exactement.
Je me prononcerai pas pour Nintendo. J'ai vraiment pas d'idée pourquoi ils ont décidé de faire ça. Mais il est évident que le catalogue est intéressant. Mm-hmm. Puis pour les indépendants, ça devient presque un incontournable. Peut-être pas pour tous les jeux, mais je pense que c'est pas un hasard qu'on voit tellement de gens ajouter cette plateforme-là à leur catalogue de développement.
Est-ce que c'est le fait aussi, vu que c'est une console qui a été lancée récemment, il y a beaucoup moins de saturation de l'offre?
Oui, c'est possible. Mais c'est sûr que ça demande quand même un effort de plus aller sur les consoles de manière générale que d'aller simplement, entre guillemets, simplement sur PC. Mais honnêtement, je ne l'ai pas vécu moi-même directement le développement sur Switch, donc j'aurais du mal à dire ces choix-là. Mais oui, c'est possible que la saturation soit une des questions, là.
Absolument. On va en parler un petit peu plus tard. Tu as quand même aussi une base en conception de jeu, en mécanique, mais on va rester quand même avec les jeux actuellement. Tu as joué actuellement en tant que personne qui a touché à la conception. Est-ce qu'il y a des jeux récemment qui t'ont marqué par leur design ou par des risques qu'ils ont pris?
Par des risques qu'ils ont pris? Oui. C'est intéressant comme question, ça. Je l'avais comme pas vu venir.
Désolé.
Sais-tu, honnêtement, ces temps-ci, je joue plus sur mon mobile. Je vais regarder dans mon téléphone pendant qu'on y est. Parce que il y a des éléments de travail là-dedans. Je passe beaucoup de temps à jouer à des jeux pour voir ce qui se fait autour de moi. Donc, des fois, dans mes loisirs, j'ai envie de faire autre chose. écoute, on va prêcher pour notre paroisse.
Oui.
Un jeu qui m'a vraiment marqué récemment, c'est 39 Days to Mars, qui est fait à Gameplay Space par quelqu'un que donc tu connais toi aussi, Philip Buchanan, qui vraiment fait un jeu super touchant, mais bon. As-tu joué?
Non, pas encore.
Non, mais ça vaut le coup. Il faut être deux. C'est un jeu coop quand même. Moi, j'aime beaucoup les jeux coop. Je trouve que c'est un peu négligé comme type d'expérience. J'aime ça de devoir coordonner, communiquer avec quelqu'un pour arriver au bout de cette expérience-là. Puis il y a quelque chose qu'on partage qui est vraiment fort là-dedans. Puis là, en plus, dans ce jeu-là en particulier, c'est beau, c'est touchant. L'histoire qui est pourtant très simple, ça donne le sourire. Il y a tous ces éléments-là qui sont tellement chouettes. Puis on a juste envie d'entrer là, dans cet univers-là.
Très bien.
Je recommande.
Parlant de jouer avec des gens aussi, il n'y a pas juste le jeu vidéo en termes d'activité ludique qui t'a attrapé ou captivé, pourrais-je dire, dans la vie. Il y a le LARPing.
Oui.
D'abord, on va commencer avec la base. C'est quoi du LARPing?
Donc, les jeux de rôle grandeur nature, c'est tout simplement un jeu théâtral dans lequel on va proposer une histoire aux joueurs qui incarnent des personnages, mais cette histoire-là n'a pas de fin prescrite. C'est vraiment les joueurs qui vont construire à travers leurs interactions avec les autres.
Mm-hmm.
Donc, c'est comme on peut imaginer dans un jeu vidéo narratif où on aurait énormément d'embranchements narratifs. mais que finalement, on en a encore plus parce qu'ils sont laissés au choix des joueurs. Dans la réalité, on finit par avoir un petit peu de raccrochage par une équipe, là, parce qu'on veut quand même avancer dans une direction intéressante en termes d'histoire. Mais oui, c'est des jeux où on laisse énormément de liberté puis d'impact aux joueurs.
Là, je vais poser des questions niaiseuses. Je suis vraiment zéro familier avec ça. Est-ce que c'est géré par des règles? Est-ce qu'il y a un maître de jeu? Est-ce qu'il y a un arbitre?
Le plus souvent, c'est sûr que chaque organisation a sa façon de faire, mais le plus souvent, il y a carrément un système de règles, un livre de règles, un peu de la même façon qu'on aurait pour des jeux de rôle sur table. Mm-hmm. On va beaucoup se reposer sur la confiance entre tout le monde, c'est-à-dire qu'on va accepter que chaque personne gère son propre élément de système, donc sa fiche de personnage essentiellement, puis son interaction avec les autres, de la façon voulue. Et puis, il y a le plus souvent un, voire plusieurs maîtres de jeu, puis des acteurs qui vont amener ces débuts d'histoire-là, puis qui vont un peu ramener les gens dans le bon chemin quand ça diverge complètement. Puis, bien, les acteurs qui connaissent l'intention du maître de jeu ou du concepteur vont pouvoir improviser, mais en amenant les bons éléments de l'histoire, finalement.
Et comment es-tu entrée en contact avec ça?
J'étais assez jeune. J'ai des grandes sœurs de plus âgées que moi de plusieurs années, dont une qui faisait ça aussi, puis qui m'avait initiée. Puis des amis qui ont aussi découvert un peu par hasard, puis on a juste comme continué à faire ça.
Qu'est-ce qui t'avait captivé là-dedans? Parce que ça ressemblait à un jeu, mais ça impliquait des amis, donc c'est...
Bien, oui, je pense que là, c'est évident que ça nourrit quelque chose que moi, comme joueuse, je recherche, c'est-à-dire beaucoup d'interactions avec les gens, mais quand même une belle histoire. Je suis presque toujours très interpellée par les éléments narratifs dans un jeu. C'est quand même... une activité chouette, là. On est presque toujours dehors, quoique pas tout le temps. On s'organise. Moi, j'ai un grand attrait pour tout ce qui est design de personnages, faire les costumes. Donc, c'est ça, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré, là.
Et là, justement, j'ai commencé à fouiller dans ton dossier LinkedIn, ouais, pour avoir des questions pointues. Tu dis que tu as été conceptrice de jeux là-dedans, que tu as été gestionnaire de projets là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se manifeste?
Bien, ça veut dire que j'ai fait partie de différentes organisations, certaines plus petites, certaines plus grosses, où j'ai eu plusieurs rôles de conceptrice de jeux, donc sur le plan système, d'écrivaine, donc pour vraiment développer l'histoire du jeu, mais sachant effectivement que tout est amené à être de l'improvisation, donc on va pas créer des dialogues, on va plutôt créer des situations. Et puis, j'ai beaucoup agi dans la gestion d'équipe, en fait. Donc, on avait des acteurs qui ont besoin de recevoir leur briefing, finalement, de savoir qu'est-ce qu'ils ont à faire, quels sont leurs objectifs. Donc, j'ai fait beaucoup ça, parce que naturellement... C'est des compétences puis des qualités chez moi qui sont ressorties, c'est-à-dire que j'avais la facilité à organiser une équipe, puis naturellement, ces choses-là sont allées de mon côté. Donc,
Quelle forme ça prend? Encore une fois, je vais avoir probablement des questions bizarres.
Oui.
Est-ce que tu fais un document de design? Oui. Est-ce que tu fais un livre?
Carrément. Carrément. C'est très, très similaire, en fait.
Ah oui? OK.
C'est drôle parce que tous les gens... On revient quand même une quinzaine d'années en arrière. Là. Uh-huh. Tous les gens qui étaient dans cet univers-là, c'est pas des gens qui avaient une formation en design. C'est pas des gens qui avaient même une expérience de conception de jeu entre guillemets réel. On faisait presque tout ça par passion, c'était c'est pas vraiment des passe-temps parce qu'on mettait énormément d'heures là-dedans, mais oui, jusqu'à un certain point, des passe-temps dans le sens où c'était pas nos carrières. La plupart d'entre nous, en fait, on n'envisageait même pas des carrières là-dedans. Mais je pense, tu sais, au début des années 2000, là, pour moi, c'était pas quelque chose que j'envisageais de devenir conceptrice de jeu. Ça faisait comme tellement pas partie de mon univers. Puis pourtant, je pouvais mettre 25-30 heures par semaine à faire des jeux, ce qui est quand même un peu drôle. Mm-hmm. Mais oui, absolument, la démarche est extrêmement similaire à ce qu'on retrouve dans des studios, c'est-à-dire qu'on fait des documents de design, on fait ce que aujourd'hui on appellerait des wikis.
OK.
Ouais.
OK. Et là, comment ça se passe la journée même de l'événement? La bible de design dans tes mains, un porte-voix, puis tu lis ça au monde pendant 3 heures?
Non. Alors, normalement, on va faire des rencontres plus ou moins individuelles, c'est-à-dire soit vraiment avec un joueur ou avec un groupe de joueurs qui sont amenés à faire une histoire commune. Puis, on va faire 2 choses. On va s'assurer qu'ils connaissent les éléments de système, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont besoin de savoir pour évoluer dans le jeu de manière autonome. Mm-hmm. Donc, ce que l'ordinateur fait, essentiellement. Donc, si c'est les règles de combat, par exemple, parce qu'on est dans un système à multiples points de vie où les armes font des dégâts différents, genre une dague fait 1 point de dégâts, une épée en fait 3, une flèche en fait 7, quelque chose comme ça, je dis n'importe quoi. Ou, à l'inverse, on a des systèmes dits de touche, c'est-à-dire que les armes font toujours le même dégât, mais si je touche ton bras, c'est ton bras qui est plus fonctionnel. Donc, il y a des grandes catégories de systèmes comme ça. Donc, on va passer au travers de ces éléments-là, s'assurer que les joueurs soient autonomes. Puis, parallèlement, on va s'assurer de monter des personnages avec eux. Ça, c'est le bout qui est le fun. C'est-à-dire que on va leur présenter un univers, des fois complexe, des fois pas, des fois très largement inspiré d'univers littéraires, des fois de films, ça dépend, des fois entièrement inventés. Et puis, on va les amener à créer un personnage là-dedans et de nous donner le maximum d'informations de ce qu'ils ont envie de faire, des objectifs qu'ils définissent, de leur peur, de tout ça, pour que l'équipe de conception, les écrivains généralement, créent des scènes puis des expériences qui vont faire vivre des grosses émotions. Puis je pense que moi, c'est ce qui m'appelle là-dedans, c'est que on est dans contact direct. T'sais, pour un développeur, là, savoir ce que le joueur vit, pas ce qu'il pense, ce qu'il vit dans ton jeu, c'est quand même assez extraordinaire. Puis ces jeux-là te donnent ça d'une façon que les jeux vidéo pourront jamais faire.
Très intéressant. En fais-tu encore?
J'en fais encore, j'en fais moins, j'en organise plus vraiment. J'ai des amis qui en organisent encore, donc ça arrive que je vais leur donner un coup de main, des choses comme ça. Mais non. Le temps manque, puis la réalité, c'est effectivement que rendu dans mes loisirs, des fois, j'ai envie de faire autre chose que du jeu. Mais j'ai en fait amené ma fille dans un... Donc, à Bicolline, qui est pas exactement un grandeur nature, qui est un peu un grandeur nature, mais qui est pas aussi strict d'un point de vue de décorum que d'autres jeux. Mais toute une semaine dans une recréation médiévale. Vraiment chouette.
Comment t'as trouvé ça?
Moi ou elle?
Ou les deux?
Les deux, c'était vraiment fun. C'était pas la première fois que j'y allais, donc pour moi, c'était comme une nouvelle expérience parce que j'amenais ma famille avec moi. Mais ouais, c'était vraiment... Ça a eu 2 gros effets vraiment chouettes. Premièrement, s'il y a bien un élément de décorum qui est plutôt respecté, c'est qu'on n'avait pas de téléphone, pas de complètement décroché. Ça a tellement fait du bien. Ça, c'était vraiment chouette. Même pas de montre. Ça, là, c'est tellement étrange. Hein? On n'est pas habitué à ça. On n'avait même pas l'heure. Donc, on se fiait à, grosso modo, quand le soleil se couche, quelque chose comme ça. Vraiment, vraiment chouette. Puis, ma fille était comme super drôle. Là. Elle prenait des grosses épées puis elle chargeait les gens. Là. C'est vraiment juste trop drôle.
Très bien. Je pense qu'on va en profiter, prendre une pause, commander notre poutine et ensuite la manger.
Ça marche.
À tantôt. Nous voilà de retour. Nous avons mangé de la poutine.
Oui.
Quels sont tes commentaires, Hélène?
Mais inattendu, mais super bon.
Ah oui?
Oui.
Est-ce que tu avais une appréhension face à ça? Est-ce que tu avais des doutes?
Ah non, mais c'est parce que je pensais qu'il n'allait pas avoir de sauce à poutine, que c'était remplacé par la tatiki, mais non, c'est mélangé.
OK, là, je dois t'avouer, c'est quand même un mélange assez improbable. Est-ce que oui. Ça se mélange
non,
bien?
Bon.
Ouais, okay,
oui,
OK.
Je recommande.
Très bien. Donc, poutine à saveur grecque à essayer sous peu. On a parlé de jeux vidéo, mais bon, il faut être sérieux dans la vie. Des fois, il faut parler des vraies affaires, les oui. études, les premiers boulots. Donc, j'aimerais discuter de ça avec toi.
Oui.
D'abord, si on voyait encore une fois dans ton fameux LinkedIn, je suis un peu déconcerté. Tu as d'abord eu un cheminement dans le domaine des langues,
oui.
de l'étude d'œuvres classiques.
Oui.
D'où est-ce que ça vient?
En fait, probablement, le bout que mon LinkedIn ne dit pas,
oh.
c'est que depuis l'enfance et puis toute mon adolescence, en fait, j'étudiais en musique classique.
Mm-hmm.
Et puis, vers 18-19 ans, j'ai décidé de ne pas poursuivre dans ce chemin-là. Puis, je suis allée pas super loin, mais j'ai transféré vers les lettres, mais je suis restée comme à la même époque. Hein. Donc... la Renaissance, qui est une période que j'aime vraiment beaucoup, que je trouve captivante. Puis, je suis entrée à l'université, puis j'ai commencé à faire un peu des essais. J'allais à l'université McGill, qui a un fonctionnement un petit peu différent de d'autres universités, c'est-à-dire que j'avais pas besoin de déclarer mon domaine d'études jusqu'à la fin de ma première année. Donc, je pouvais juste comme essayer des choses. Ce que j'ai fait, puis j'ai fait un cours de latin. J'ai beaucoup aimé ça. J'en avais déjà fait un petit peu au secondaire, puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis...
Et là, comment ça fonctionne après ça? Ton profil académique est basé sur les cours que tu as choisis précédemment ou tu vas avoir un semblant d'orienteur qui dit « Si on regarde, tu as fait du latin, tu as fait ci, tu as fait ça, tu devrais aller vers ça? »
Non, en fait, donc à la fin de cette première année, j'ai dû déclarer une majeure,
mm-hmm.
Puis choisir un domaine d'études. Ce que j'ai plus ou moins fait à ce moment-là, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai déclaré une double majeure, c'est-à-dire que je n'ai pas pu choisir entre deux domaines, qui, dans mon cas, étaient la littérature et les études classiques, ce qui m'a amené donc à faire un bac combiné entre ces deux matières-là, où j'ai fait plein de choses, vraiment le fun, puis avec beaucoup de candeur, pas nécessairement très utile, mais que je regrette pas du tout, au contraire, parce que ça donne des perspectives sur plein de choses. Mais j'ai étudié les langues anciennes, la mythologie, l'histoire, la littérature. Donc, un cheminement très, très, très classique, justement, qui m'a amené ensuite à aller à la maîtrise, où j'ai travaillé sur plus des questions linguistiques. Partant de ça... Pendant mes études, j'ai travaillé beaucoup à l'université comme assistante de recherche et j'ai eu la chance de travailler avec une éditrice de livres qui, au moment de ma maîtrise, m'a en fait offert de joindre sa compagnie de manière permanente, ce que j'ai accepté, en fait. Et donc, j'ai travaillé en édition de livres pendant plusieurs années à ce moment-là. Mais cette compagnie précise-là faisait... des livres de différents genres, notamment des livres jeux, avec des collections très ludiques, très pratiques, très axées sur qu'est-ce qu'on fait avec ce livre-là. Donc, on parlait déjà d'expérience et il y a une démarche de design, finalement, qui, avec du recul aujourd'hui, je peux dire, est très similaire à quand on fait un jeu. Et là, on se remet en... 2009-2010, on commençait à faire des applications de l'édition numérique. On est à mi-chemin entre des vraies applications jeux et du contenu de livres mis en format numérique. On est comme à une drôle d'époque aussi là, où il n'y a pas tant d'appareils que ça qui le supportent bien. Puis c'est ça. Puis... les années ont passé là-dedans. J'avais beaucoup de plaisir dans ce que je faisais. La compagnie a eu des difficultés financières, en fait. Puis j'ai dû faire des choix qui m'ont amené à aller vers d'autres choses. Puis, je te l'ai dit tantôt, j'ai pas grandi en pensant que j'allais devenir conceptrice de jeu. C'était tellement pas quelque chose dont on parlait. Il y avait pas de formation. Il y avait pas... les gens apprenaient comme sur le tas. Il y avait plein de gens qui venaient du cinéma, qui allaient vers le jeu, mais c'était pas du tout mon profil. J'avais pas particulièrement un profil technique, même si un peu. Puis j'ai travaillé avec à contrat, en fait, sur des jeux de société. C'est quelque chose que j'ai fait pendant un petit bout de temps.
Ça, c'est un peu lié à ton background, justement, en publication. Là,
ça peut être en fait, oui, c'est ça qui s'est passé. C'est que puisque je venais d'une maison d'édition, mm-hmm. puis que j'avais de l'expérience en travail de contenu, d'une part, mais aussi en production de produits imprimés, bien, c'est sûr que le saut vers le jeu de société n'était pas gros. Là. Mm-hmm. Puis en fait, c'est même des choses... On avait fait des jeux de cartes des jeux de société à l'intérieur de cette maison d'édition-là. Donc, c'était assez naturel d'aller vers ça. J'ai fait ce qu'on appelle de l'édition de règles. J'ai revu j'ai revu et réécrit des livres de règles pour des jeux de société pendant quelques années comme pigiste. Puis, je faisais d'autres choses un peu à droite, à gauche pendant ce temps-là. Puis, à un moment donné, c'est surtout des amis qui me disaient, « Mais voyons, regarde ce que tu as fait, regarde les compétences. Il me semble que le jeu vidéo, c'est ce qui a de l'allure pour toi, ah, que tu as le bon profil. » Ben oui, c'est ça. Il y a quelques des choses qui reviennent. J'avais fait, ben, comme tout bon jeune fait à ce moment-là. J'avais envoyé des CV à différents endroits. Ça n'avait pas abouti. Mais ça s'était malgré tout bien passé. C'est-à-dire que j'avais pas obtenu d'emploi, mais j'avais eu des retours des recruteurs qui me disaient, ben écoute, on aime ton profil, mais il faudrait regarder peut-être ces choses-là, aller chercher un peu d'expérience, t'as pas vraiment de portfolio, tout ça. Mais le simple fait qu'ils avaient pris le temps même de me téléphoner dans certains cas, ça démontrait qu'il y avait comme que c'était le bon chemin. C'est à ce moment-là que des amis m'ont parlé de Pixel, qui a été un point marquant pour moi. Qu'est-ce qui est Pixel? Ben, Pixel, c'est un organisme qui cherche à aider les femmes dans l'industrie du jeu vidéo mm-hmm. et qui fait ça à travers différents programmes. Le premier programme est celui qui m'a concernée à l'époque. C'était un incubateur de jeux, c'est-à-dire un programme qui amène des femmes chaque année à créer leur premier jeu vidéo, mais de manière complètement autonome. C'est-à-dire qu'il y a des mentors qui vont soutenir ce cheminement-là, mais chacune des participantes vont vraiment faire tout. C'est vraiment un super beau programme. Puis moi, j'ai donc appliqué pour ce programme-là. J'avais été choisie pour faire partie de la cohorte du troisième incubateur. Et partant de ça, il y a plein de choses qui se sont passées. Là, j'ai comme validé l'intérêt pour moi. C'était super important. J'ai vu que j'étais capable, ce qui est quand même un des éléments forts de ce programme-là, c'est-à-dire au niveau de la confiance, au niveau du cheminement personnel, là, il y a quelque chose qui se passe. C'est aussi là qu'on m'a parlé du programme de design de jeu de l'Université de Montréal, qui a été la prochaine étape dans mon cheminement. C'est-à-dire que j'ai décidé de retourner à l'école faire ce programme-là, qui a effectivement davantage solidifier là, cette décision-là de vraiment transférer complètement vers le jeu vidéo. Je pense que c'est un programme où on fait plein de projets là-dedans. C'est vraiment chouette. Mais j'ai aussi découvert que finalement, je faisais déjà du design dans ma vie. Là. C'était pas quelque chose qui était absent de mon cheminement. Puis pour la petite histoire, aujourd'hui, je suis coordonnatrice de l'incubateur Pixel. On lance la 7e édition, c'est quand même vraiment chouette. Je dois dire que pour beaucoup de gens, ça devient quand même une porte d'entrée vers l'industrie, même si ce n'est pas l'objectif. Donc, partant de là, bien justement, il s'est passé un peu plein de choses. Le DESS, donc le programme de l'Université de Montréal, m'a fait rencontrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens dans l'industrie, m'a permis de monter un portfolio, ce qui est non négligeable. Puis, bien, les choses ont comme déboulé de là. J'ai travaillé avec plusieurs studios, pour la plupart à contrat. C'est quelque chose que j'avais déjà fait, donc de travailler à contrat et que j'aime faire. J'ai travaillé sur beaucoup d'événements de l'industrie. Puis, ça m'a amené au début de l'année, ça fait pas si longtemps que ça, finalement, à Gameplay Space.
OK. Ouais. Et pourquoi as-tu opté pour ce mandat-là?
Mais... De tous les rôles que j'ai eus, puis je te l'ai dit plus tôt aussi, je pense que j'ai toujours eu un profil plutôt hybride. C'est-à-dire que même si... Clairement, j'ai toujours fait du design, puis que j'aime ça et que c'est un élément fort dans ma production. Tout ce que je fais, je considère qu'il y a des éléments de design dedans. J'ai aussi toujours eu naturellement une tête de gestion, mm-hmm. Si on peut dire ça. J'ai pas de formation formelle en gestion ou en communication, mais c'est des choses que je fais beaucoup. Puis, dans la majorité des projets, même les projets créatifs, peut-être surtout les projets créatifs, c'est souvent le rôle que je finis par occuper, même dans mes loisirs. Donc, j'ai rencontré Liv, qui est la directrice de Gameplay Space. Ça a dû être à travers Pixel, en fait. Mais au moins une bonne année avant de joindre cet organisme-là. Puis, on a collaboré dans un panel au MIGS 2017, donc MIGS qui est notre conférence d'industrie à Montréal. Et puis, un panel où on parlait justement des groupes communautaires, qu'est-ce que c'est organiser des événements pour le jeu, quelle est la différence de d'autres industries, tout ça. Et puis, on était comme restés en contact, mais professionnels là, après ça. Puis, en janvier, m'a envoyé un message en me disant « Écoute, on cherche deux personnes à Gameplay Space pour un nouveau projet. Puis, j'ai pensé à toi, mais as-tu des recommandations? Penses-tu à des gens qui pourraient être bien? »
Elle te demandait de vraiment donner des suggestions de qui pourrait être ta compétition potentiellement.
Bien, en fait...
C'est bizarre.
Je pense pas que Liv connaissait nécessairement la situation dans laquelle j'étais à ce moment-là. Okay. Mais moi, je venais de terminer un contrat important, donc ça arrivait comme au bon moment. Quand j'ai lu la description, je me suis dit ben pourquoi pas. Ça a l'air chouette. Moi, j'ai toujours eu un désir de connecter avec les gens. Je pense que ça revient beaucoup dans ce que je fais, d'être proche de la production. J'aime la production indépendante. Foncièrement, j'ai un désir d'être avec les indies. Puis, ça avait comme bien du sens. Puis, je me suis dit, ben, de toute façon, je pars à rien parce que, justement, j'étais pigiste encore à ce moment-là. Donc, je quittais pas un emploi pour ça ou quoi que ce soit. Puis, j'ai fait comme tout le monde. J'ai envoyé un CV, une lettre d'intention. On m'a convoqué en entrevue. Puis, finalement, ils m'ont offert le poste. Puis, effectivement, je suis là depuis, donc, février 2018.
Très bien. Histoire de mettre la table comme il faut, j'ai fait, bon, dans mon introduction, ma définition du gameplay space. Quelle serait la tienne, probablement? Je serais curieux d'avoir ta perspective intérieure, potentiellement.
Okay. Donc, Gameplay Space, comme endroit, disons, c'est un espace de co-travail qui réunit principalement des studios de jeux vidéo indépendants, puis qui permet justement de se rassembler, puis de collaborer souvent. C'est aussi un lieu de rassemblement, une espèce de hub créatif. En fait, justement, c'était un endroit que je connaissais pour l'avoir visité souvent avec d'autres groupes, avec Pixel notamment. Mais pour moi, dans la position dans laquelle je suis, c'est complètement autre chose parce que le projet sur lequel je travaille, qui est donc notre moteur de découvrabilité, c'est sûr que c'est attaché à l'espace, on s'entend, mais ça n'a pas tellement de lien avec l'espace physique tant que qu'est-ce qu'on fait comme suivi, comme formation, comme soutien aux équipes, en l'occurrence aux équipes résidentes et aux autres, puisque nos activités sont vraiment offertes à tout le monde. Puis ça, c'est quelque chose que j'apprécie quand même parce que ça donne la nouveauté dans qu'est-ce qu'on fait, puis on voit un peu tout ce qui se passe. C'est quand même vraiment chouette, là. Il y a, je ne sais plus combien, là, presque 200 studios à Montréal, là. C'est quand même impressionnant, là.
Et absolument, ça m'amène un peu à la question que j'avais à propos du Gameplay Space aussi. On ne se le cachera pas, il y a d'autres espaces de co-travail technologique à Montréal. Quelle est la plus-value ou peut-être le caractère unique du Gameplay Space? J'imagine que c'est ce type d'initiative-là communautaire.
Je dirais qu'il y a deux éléments réellement uniques. C'est premièrement les autres espaces de co-travail souvent technologiques. Ils ne sont pas tous dans le domaine des technologies, mais il y en a beaucoup quand même. Mais ils ne sont pas spécifiquement de jeux vidéo. Puis en fait, en rassemblant des gens qui viennent de la même industrie, mais même de la même sous-industrie, on n'est pas juste dans les technologies de l'information, on est dans le jeu vidéo. Il y a une possibilité de transfert, de mentorat par les pairs, des gens qui ont davantage des besoins similaires, peut-être des réponses aux autres, que d'autres centres ne peuvent pas offrir. En fait, souvent, dans les espaces de co-travail, c'est comme l'inverse. On va chercher à avoir des membres qui font des choses complémentaires plus que similaires dans le but qu'ils puissent devenir des fournisseurs les uns des autres, ce qui a complètement du sens. Mm-hmm. Mais Gameplay Space a cherché à faire quelque chose d'opposé, c'est-à-dire on va s'entraider parce qu'on va avoir des besoins similaires, donc on va trouver des solutions en co-développement. Donc, ça, c'est unique dans ce sens-là. Puis, effectivement, le programme de soutien qu'il y a pour la production indépendante, c'est pas 100% unique dans la mesure où il existe d'autres programmes de soutien. Mais oui, c'est nouveau. C'est Gameplay Space qui a créé ça. Puis même l'équipe actuelle le crée constamment parce que... le propre même de ce projet-là est de découvrir ce qu'on appelle les métriques de succès. Mm-hmm. C'est-à-dire que mon travail à moi, celui de Stéphanie, qui est notre responsable marketing, est souvent de travailler directement avec les équipes, de s'assurer qu'on répond aux besoins réels des membres qui sont là, de connecter avec toute notre communauté, mais avec les grands joueurs de l'industrie, que ce soit des éditeurs, que ce soit justement les grosses plateformes, mais aussi les influenceurs, les streamers, les journalistes et tout ça. Tout ça, c'est comme un gros écosystème dont on ne connaît pas très bien ou plus très bien les rouages parce qu'il est constamment en train de changer. Et puis, ce besoin de se faire découvrir, qui est donc la découvrabilité, qui est un espèce de nouveau mot là, qu'on essaie de définir, c'est notre matériau à nous où on, justement... En même temps qu'on construit notre projet, on essaie de définir ce sur quoi on travaille. Mais ça, c'est le fun parce que ça nous laisse constamment comme au milieu du bassin créatif. On a un impact concret, réel, sur la production, puis les équipes. Donc,
très intéressant. On touche la fin de notre segment. Là, tu as parlé d'un engin de, attention, je vais m'enfarger dans le mot, 3, 2, 1, découvrabilité.
Oui.
Je l'ai eu, c'est fantastique. Je proposerais de prendre une pause.
Vas-y.
Puis pour le dernier droit, j'aimerais vraiment parler de ce projet-là.
Ça marche.
Très bien. On y va. Nous voilà de retour.
Oui.
D'abord, je veux souligner que le fait que Hélène est très professionnelle. Entre chaque segment, tu prends ta pastille pour t'assurer que ta voix ne lâche pas. J'aime vraiment ta vocation pour l'art, voilà. Bon, tu parlais d'un engin de, attention, on va se réessayer, découvrabilité.
Oui, exact.
Bon, deux en deux, je suis fier de moi. En quoi ça consiste?
Donc, c'est essentiellement un programme de soutien pour les studios indépendants. D'abord, ceux de Gameplay Space, Montréal, le Québec. Puis, en fait, on a découvert qu'on touchait plus de gens dès la première année, donc ça, c'est vraiment chouette. La découvrabilité, c'est comme une drôle de bête, là. C'est l'espèce de définition qui existe en ce moment, qui est une définition super académique. C'est à la fois le besoin d'être découvert à l'intérieur d'une masse importante d'informations, puis les moyens qu'on va mettre en place pour permettre de découvrir ce contenu-là. Si on ramenait ça à des éléments techniques, ça serait lorsque je mets un produit comme un jeu, ça n'aurait pas besoin d'être un jeu, sur le marché, quelles sont mes stratégies pour permettre que mon public, quel est le bon public, soit capable de trouver que j'existe d'une part, de trouver l'information au sujet de ce produit, puis aussi attiser son intérêt. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment une drôle de bête qui implique beaucoup d'éléments marketing, qui implique le travail avec tous les partenaires naturels d'une production culturelle. Dans le cas du jeu, on parle bien sûr des développeurs puis des joueurs, mais toute la chaîne entre les deux, des éditeurs quand il y en a, les influenceurs qui parlent de ton jeu. Est-ce qu'un influenceur, c'est la même chose qu'un journaliste, un streamer? C'est toute cette question-là qui vient se joindre là, à notre projet.
Là, j'ai une question un peu boboche.
Oui.
T'as dit le mot marketing quand même dans ton truc, mais en quoi ça se distingue du marketing? C'est quoi la relation avec le marketing? Le marketing est un outil pour cette démarche-là?
Oui, essentiellement, c'est ça. Le marketing est un outil pour cette démarche-là. C'est un outil important pour cette démarche-là, mais ça, la découvrabilité, ça dépasse le marketing. C'est-à-dire que les relations avec les influenceurs, par exemple, bien, on pourrait parler de marketing d'influenceurs, effectivement, mais on dépasse les formes du marketing traditionnel. Dès qu'on est sur les plateformes de streaming, comment est-ce qu'on existe dans les plateformes de streaming? Comment est-ce qu'on rejoint ces gens-là? Comment est-ce qu'on compétitionne contre les AAA, contre les autres indies? Est-ce qu'on compétitionne contre les autres indies ou est-ce qu'on n'est pas en train de créer un environnement où les joueurs sont intéressés par notre production globale? C'est toutes ces questions-là qui viennent se mélanger à ça. Ce qui est intéressant dans le projet qu'on fait, c'est que nous, on est dans le très pratique. C'est-à-dire que, finalement, on est assis à côté des développeurs, puis on n'est pas en train de faire leur jeu, bien sûr, mais on est très, très proche. Hein. On va s'asseoir avec eux, les aider à obtenir du financement. On va les aider à préparer leur pitch. On va les aider à aller dans les conférences. On va des fois carrément revoir leur blog, les textes de blog avant qu'ils les publient. Tu sais, c'est super varié comme ça. Mais parallèlement à ça, on est associé à l'Université Concordia qui fait une véritable recherche sur le sujet avec le désir justement de définir ses métriques de succès. Donc, est-ce qu'il existe une recette? Est-ce qu'il y en a une ou est-ce qu'il y a certains ingrédients nécessaires ou au contraire nuisibles pour le succès d'un jeu? On n'a pas de réponse à ça encore. Là.
Pour le bien de nos auditeurs,
oui.
Quelle forme très concrète peut prendre ces initiatives-là? Vous faites des événements notamment.
On fait beaucoup d'événements de réseautage, beaucoup d'événements de playtest. Des fois à relativement petite échelle. Dans le fond, ces événements-là servent beaucoup de préparation. C'est-à-dire que dans un environnement familier, présenter son jeu, des fois, c'est un peu plus facile, mais ça permet de tester quelle est notre meilleure forme. Est-ce qu'on a un démo qui est adapté pour aller dans les plus gros événements? Ça prend la forme de formation. Nous-mêmes, on met en place certaines formations ou du coaching, en fait, avec les équipes. Il n'est pas rare que certains vont venir s'asseoir avec nous, puis ils veulent voir une autre perspective sur qu'est-ce qu'ils font. On n'a pas les réponses à tout, bien sûr, mais on finit par avoir, à force d'avoir plusieurs perspectives de gens qui font ça à longueur de journée, sans compter certains des consultants comme Jason Delaroca, qui est quand même quelqu'un qui a fait ses preuves. Ça active la réflexion par rapport à qu'est-ce qu'on fait. Puis, bien, il y a tous les invités qu'on fait venir qui viennent faire des ateliers, carrément des formations de tout genre. Comme on a lancé au mois d'octobre, donc vraiment récemment, notre série avec les éditeurs de jeux, ce qui est vraiment chouette. C'est pas tout le monde qui a les accès faciles pour rencontrer certains des grands noms de l'industrie. Et puis, c'est des gens qui ont accepté de se prêter au jeu, qui viennent à Gameplay Space, puis qui rencontrent... ils nous ont ouvert leur agenda, puis ils nous ont dit, « C'est bon, je vous donne 2 jours, puis je vais rencontrer les gens. Il y a des étudiants, des équipes étudiantes qui sont venues rencontrer des éditeurs, demander conseil et puis... C'est quand même assez privilégié, je pense, d'avoir accès à ce genre de rencontre-là, ce genre de contenu-là. Puis, ben, même si Gameplay Space aurait pu mettre en place ce genre de rencontre-là sans avoir un projet global qui venait gérer ce qui se passe, la réalité, c'est que il y avait besoin d'avoir un soutien d'une part financier parce qu'il y a effectivement une subvention qui est attachée à ce projet-là, mais aussi simplement des gens pour le faire. Donc ça relève la portion, disons, plus éducative du projet fait principalement partie de mes tâches, là où la portion marketing fait plutôt partie des tâches de Stéphanie.
Très bien. Et là, bon, on parle de plusieurs initiatives.
Ouais.
Comment fais-tu choisir les initiatives? Comment, bon, exemple, cet été, vous avez un événement, le Disco. Comment as-tu choisi de dire, il faut cet été faire un événement? Peut-être pas qu'il s'appelle le Disco, ça, c'est un niveau de détail qui est peut-être trop rapide. Mais comment tu te rends ce cheminement-là? De dire, OK, cet été, on doit faire un événement, le Disco, on fait venir des personnes, on va streamer ça sur Twitch. Comment tu te rends là?
Bien, ça se fait pas tout seul. Hein. Ça, c'est l'idée d'avoir une équipe. Il y avait une vision pour ce projet-là dans son ensemble avant que moi, je joigne Gameplay Space aussi. Mais on s'assoit ensemble puis on cherche nos objectifs. Et on essaie de penser à qu'est-ce qui a le plus grand potentiel d'impact positif pour les équipes, notamment dans l'apprentissage. Parce que comme je l'ai dit il y a quelques minutes, au final, on ne peut pas faire le travail à la place des développeurs. Ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre désir non plus. Mais ce qu'on peut faire, c'est les accompagner et puis s'assurer qu'ils ont toujours l'information la plus juste puis la plus récente. C'est souvent ce qui va faire la différence. L'autre portion du programme, comme j'ai dit, c'est d'augmenter les occasions de rencontre, les occasions d'affaires, les occasions de réseautage. Quand on parle de la portion éducative, il y a une limite à ce qu'on peut faire nous-mêmes. Puis, l'élément de familiarité, des fois, vient comme jouer contre nous. Parce que quand on est toujours avec quelqu'un, bien, ça ne veut pas dire qu'on ne se fait pas confiance, mais avoir quelqu'un qui a une renommée internationale qui vient dire peut-être la même chose, des fois, le message passe mieux. Puis, bien, simplement, ces gens-là ont vraiment des histoires intéressantes à nous dire, puis un apprentissage extraordinaire et d'une valeur extraordinaire à nous transmettre. Donc, une grosse partie du projet vient ou est conçue pour amener des gens de l'extérieur à Montréal pour rencontrer les développeurs. Puis, bien, j'ai donné l'exemple des éditeurs, mais on a aussi toute une série de mentors. Quand on pensait à ces éléments-là, qui on voulait faire venir, il y a eu cette idée de « mais pourquoi pas faire plus comme une conférence et de réunir ce contenu-là dans une journée de vraiment haute qualité sur le plan du contenu? » Et on cherchait un peu notre façon de faire, puis ça s'est construit comme ça. Ce qui a été vraiment extraordinaire de cette conférence-là, c'est la qualité des interventions. Donc, on avait au total 7 conférenciers internationaux, dont 6 n'étaient jamais venus à Montréal et le 7e était déjà venu mais n'avait jamais donné de conférence. Des gens hyper spécialisés qui ont pris le temps de monter des conférences solides. Puis ça, on n'en a pas souvent. Puis réussir à avoir ça à Montréal, ça vaut beaucoup pour une industrie. Puis il est clair que c'est un événement qui se veut récurrent.
Mais bon, qui dit engin dit, bon, ajustement, optimisation pour avoir un bon moteur de Formule 1.
Absolument.
Comment ça se passe de votre côté? Vous faites, exemple, encore une fois, vous avez fait le Disco cet été. Après ça, j'imagine, vous avez un post-mortem pour quantifier comment ça marchait. Comment vous vous prenez?
Donc, oui, tout simplement, on fait des post-mortems. Après chacun des plus gros événements, les plus petits, on a plus comme une conversation en continu par rapport à ça, mais généralement, on va grouper les choses. À partir de nos évaluations, puis des commentaires qu'on reçoit des participants, puis des collaborateurs, on va se questionner sur l'impact qu'on a sur les développeurs. Puis, c'est donc ce que je te disais, vraiment comme du design, c'est-à-dire qu'on va se demander qui est notre public cible, quel est notre impact voulu, à travers quel type d'expérience, quels seront nos... notre processus, quelle forme est-ce que ça va prendre. C'est vraiment très similaire quand on construit quelque chose. Hein. Là, dans le cas d'une conférence, bien, on s'est dit, OK, on veut réunir des gens. Une fois que les gens sont réunis, on veut les informer. Notre objectif est vraiment éducatif. On s'est dit, mais pendant que tous ces beaux gens-là sont ensemble, on va aussi leur donner une occasion de réseautage. C'est comme ça que ça se construit. On est plus éclairé, disons, après un événement. Et puis, c'est ça l'intérêt d'avoir un projet organisé, puisque la même formule sera répétée et on pourra l'améliorer. Par exemple, on a senti cette année qu'on avait peut-être un peu trop saturé la journée. Il y avait trop de contenu à l'intérieur de pas assez de temps. Donc, on va certainement revoir cet élément-là. Puis, un des gros éléments qu'on a ajouté à travers ce projet-là, que Gameplay Space ne faisait pas du tout avant, c'est le streaming, qui se révèle de plus en plus dans l'industrie comme un facteur clé de succès. Puis, que ce soit en le faisant soi-même ou en connectant avec des streamers établis, souvent le deuxième plus que le premier, Gameplay Space a le désir et puis l'intention, elle s'est déjà mis en marche, de justement créer cette plateforme de rayonnement pour la production locale vers nos publics qui, finalement, sont très peu au Québec, en devenant justement cette espèce de record label pour les jeux indie d'ici. Et puis, les plateformes de streaming font définitivement partie de cette démarche-là.
Et sans, mettons, révéler votre recette secrète, actuellement, quelle sorte d'indices vous regardez pour voir, pour mesurer, pourrais-je dire, le succès ou l'échec d'une initiative?
En fait, en ce moment, on fait de l'analyse à trois niveaux. On fait, d'une part, l'analyse des métriques même des studios. Ça, c'est fait à travers la recherche de l'Université Concordia qui sont sous un comité d'éthique et tout ce que tu veux. Donc, en fait, ça passe même pas par nous. Il y a des chercheurs associés et puis une coordonnatrice à la recherche qui se joint à nous certaines journées par semaine puis qui a rencontré des gens dans les différents studios puis qui va chercher des renseignements sur la composition des équipes, sur les efforts mis dans la commercialisation, le marketing des produits, qui va faire l'analyse, l'audit des médias sociaux, des différentes plateformes de communication, newsletter, tout ce que tu veux, un peu de données démographiques, ce genre de choses-là. Oui, donc cette recherche va servir à faire un profil de l'industrie locale. Et puis, en faisant, en fait, ces snapshots-là à différents intervalles, on voit la progression. Puis, on va certainement éliminer certains des éléments qui ont été analysés en cours de route pour, c'est le désir, identifier ceux qui seraient signifiants dans cette démarche-là. Puis, une des raisons pourquoi on a décidé de fonctionner comme ça, puisque normalement, une recherche de cet ordre-là aurait plutôt cherché à comparer les compagnies entre elles pour essayer de voir est-ce que l'une réussit mieux que les autres et pourquoi. C'est qu'en fait, le propre de la production de jeux, c'est que chaque compagnie est presque unique. C'est très difficile de comparer une compagnie où il y a un développeur solo qui fait du jeu uniquement sur PC, d'une compagnie qui a 15, 16, 17 employés, qui fait du mobile, puis qui en est rendu à son septième jeu. Ça marche pas comme ça. Donc, on a choisi à ce moment-là de comparer les compagnies à elles-mêmes, mais dans le temps, en voyant les efforts qui sont mis. Parallèlement, ça nous permet de voir est-ce que nos activités ont un impact sur ces choses-là. Donc, le deuxième élément dans lequel on fait de l'analyse, c'est à même nos activités, c'est-à-dire la fréquentation, les commentaires qu'on reçoit, est-ce qu'il y a certains sujets qui sont plus populaires que d'autres. Lorsque les compagnies envoient des employés dans nos activités, quel est le rôle de cette personne-là qui vient vous consulter? Quel contenu? Est-ce qu'on veut savoir, par exemple, est-ce que c'est toujours le chef de studio qui participe aux éléments ou au contraire, est-ce qu'on va choisir la personne qui est attitrée à certaines tâches pour aller chercher du contenu spécialisé? C'est quand même assez compliqué, mais tout ça, ça finit par donner un profil assez intéressant de qu'est-ce qui se passe. Le troisième élément d'analyse, c'est nos propres plateformes. Est-ce que nous, comme plateforme de rayonnement pour la production locale, on a une croissance favorable et est-ce qu'on voit cette croissance-là avoir un impact sur les studios qu'on aide? OK. Ça ressemble à tout ça. Ça, c'est ce qui se passe dans les coulisses.
Et là, là, c'était un peu intimidant. Et aussi, l'aspect que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est, bon, tu avais parlé au début, il y avait quand même une démarche académique mêlée à tout ça. Donc, je trouve ça très intéressant aussi que presque après chaque événement, après chaque tentative, ils sont là pour ramasser les données puis ils continuent à affiner ce portrait-là.
Mais en fait, encore une fois, c'est comme créer un jeu. On ne peut pas raisonnablement croire qu'on va améliorer notre démarche si on ne va pas chercher du feedback. Donc, c'est la même chose. Là, soyons honnêtes, c'est probablement moi qui le vois comme ça parce que c'est ma démarche. Mais mais c'est vrai. Il y a des raisons pour qu'on fonctionne comme ça.
Et pour toi, personnellement, Adap, quelles ont été peut-être les grandes surprises, les grandes découvertes de ce processus-là?
C'est intéressant, ça. Disons, à titre personnel... C'est sûr que ce qui est vraiment, vraiment chouette, ce qui est vraiment le fun, c'est que on a malgré tout un accès privilégié à ce qui se passe dans les studios, notamment parce que on est sous entente de confidentialité, mais parce que c'est notre rôle d'aller s'asseoir avec les gens, de voir qu'est-ce qu'ils font, de les aider à passer certains obstacles, puis on n'est pas beaucoup, je pense, à avoir cette chance-là de passer d'une équipe à l'autre puis de voir comment chacun fonctionne. Tout le monde est différent. Tout le monde, tu sais, on fait les choses de la même façon, mais pas. On a tous un petit côté unique. Puis nous, on est au cœur de ça. Puis c'est vraiment le fun.
Non, j'avoue, c'est un privilège d'une certaine manière. Dans l'espace d'un avant-midi, tu peux peut-être faire trois équipes et voir trois portraits différents et à trois moments différents. Donc, wow, c'est intéressant. Comme tu dis, vous faites de la recherche, tu es en train de tracer un portrait. Peut-être en premier temps, qu'est-ce que tu crois être l'avenir de ce type d'initiative-là? Est-ce qu'il y a déjà des trucs que tu as spotés? Tu dis, OK, dans deux ans, ça va être gros.
On est vraiment au début du développement de nos propres plateformes. Je pense que ça va être un élément décisif. Pour les indépendants, la force du nombre, je crois, aura un bon impact. Donc, en réussissant à attirer les regards vers Montréal comme centre de développement, bien, le but, évidemment, c'est de permettre à chacun de rayonner. Ça, j'ai hâte de le voir. Ça, je pense que ça va devenir un morceau de plus en plus important.
Si on va en termes un petit peu plus large avec le Gameplay Space, ce type d'espace-là de co-travail, peut-être spécialisé dans un domaine, vers où tu crois que ça va tendre dans le futur? Est-ce que c'est justement dans ce type d'initiative-là?
Écoute, on en voit de plus en plus. Je ne dirais pas que je les connais très bien, mais justement, Liv, donc notre directrice, a créé un regroupement des centres de co-travail dédiés aux jeux vidéo d'un peu partout à travers le monde pour qu'ils puissent s'entraider. D'ailleurs, donc, la semaine dernière, elle a fait avec deux collaborateurs un panel au MIGS là-dessus précisément. Puis, on voit que le modèle là, est intéressant. Le modèle de Gameplay Space en particulier nous est identifié là, comme particulièrement fort. Il y a beaucoup de travail qui est mis là-dedans. Là. Puis c'est sûr qu'il y a un désir de le faire grandir puis d'amener encore plus de valeur pour les équipes. C'est particulier parce que souvent, les espaces de co-travail comme ça sont vraiment uniquement des espaces physiques.
C'est local, ça, avec des bureaux. Là.
Souvent, il y a des événements. Souvent, il y a des occasions de rencontres. Comme je disais tantôt, il n'est pas rare qu'on voit dans ces genres d'espaces-là que des compagnies de plusieurs genres. Puis là, on va chercher à les mettre en lien parce qu'on va se dire, on a une compagnie de design web, donc cette personne-là pourrait offrir ses services aux autres. Mais c'est plutôt tourné vers ce genre d'initiative-là, souvent. À Gameplay Space, on parle davantage d'un incubateur d'entreprise, au sens des, comme on va parler des startups, là. Puis même si c'est pas un modèle qu'on associe particulièrement aux jeux vidéo, qui sont souvent les studios de jeux sont souvent des compagnies qui sont créées plutôt par passion que par désir de développement d'affaires. Un projet comme celui-là ramène l'élément business, croissance, qui dans le fond, est nécessaire à être durable. Donc, je pense que ça, on va le voir certainement davantage s'implanter, c'est-à-dire de faire le lien entre organisation créative de passion et business. Donc,
si je veux plus d'informations sur le Gameplay Space, l'engin de découvrabilité, je m'y ai pris en anglais, quelle catastrophe. Où est-ce que je vais pour avoir de l'information supplémentaire?
Bien, le mieux, c'est d'aller sur notre site web, qui est gameplayspace.com, simplement. En ce moment, le site web donne surtout de l'information sur l'espace de travail, mais à venir, petit spoiler, beaucoup, beaucoup de nouveautés qui vont aller en ligne, qui font vraiment partie de notre démarche de rayonnement.
Si on devait avoir une présence sur les réseaux sociaux, les
oui,
événements.
Oui, bien sûr, le même nom, Gameplay Space. Donc,
un gros merci à toi, Hélène. Ce fut, ma foi, très intéressant.
Ah, génial.
Nous voilà déjà de retour à mon appartement et comme vous pouvez vous douter, je vais m'occuper des responsabilités de fin d'épisode. Donc tout d'abord, c'est votre premier contact avec Poutine à deux. Je vous invite fortement à vous abonner à Poutine à deux. Actuellement, il y a deux moyens faciles. Vous pouvez trouver Poutine à deux soit sur Apple Podcasts ou Spotify. Et si vous n'utilisez pas ces applications, vous pouvez vous abonner à Poutine à deux via notre fil RSS. Il est très facile à trouver. Vous avez tout simplement à aller au radiokawa.com, aller dans la section jeux vidéo, ensuite, la page de Poutine à deux, et vous devriez trouver le lien vers notre fantastique fil RSS. Sinon, Poutine à deux est bien évidemment présent sur les réseaux sociaux. Cherchez Poutine à deux sur Facebook ou Twitter. Ou, si vous voulez vous connecter de manière plus directe à nous, cherchez l'identifiant à commercial Poutine à deux, donc P-O-U-T-I-N-E-A-D-E-U-X. Vous allez nous trouver ainsi. Si vous êtes comme moi un peu plus la vieille école, vous pouvez aussi nous contacter par courriel au poutineadeux@radiokawa.com. Dans l'éventualité où est-ce que vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous donner très facilement un coup de main. Il s'agit tout simplement de laisser une note sur Apple Podcasts, idéalement 5 étoiles, et potentiellement, si vous voulez aller beaucoup plus loin, chose que j'apprécie, vous pouvez laisser un commentaire écrit. Comme vous pouvez vous douter, nous lisons évidemment tous les commentaires. Sur ce, on va se donner un rendez-vous pour le prochain épisode. Donc oui, le prochain épisode de Poutine à deux sera disponible le mercredi 12 décembre 2018. L'invité est encore secret. Vous avez tout simplement à nous suivre sur les réseaux sociaux pour voir qu'est-ce qui se passe avec cela. Sur ce, on se dit à la prochaine. Au revoir. Mm-hmm.